D'accord. Et en termes d'instruments, tu serais plus, je sais pas, Fender, Les Paul, ou il y a aussi, t'as une marque plus qui te parle plus?
Bah moi tu sais je suis d'une génération donc j'ai vraiment beaucoup travaillé la guitare dans les années 80, tu vois, c'est là où j'ai découvert un peu tout ça. Donc forcément à cette époque-là c'était un peu l'avènement de ce qu'on appelle les super strats, hein, je sais pas si voilà. Donc qui sont des guitares on va dire de type Fender mais avec des micros doubles comme sur une Gibson et des systèmes de vibrato un peu plus fiables et évolués. Donc moi j'ai été bercé un peu par cette culture-là, donc j'utilise toujours des instruments comme ça, même si j'aime aussi les Telecaster, tu vois, par exemple, qui sont des instruments plus connotés 60s. Mais enfin voilà, moi je suis vraiment de cette génération de la Super Strat, donc forcément tous les instruments que j'ai, ils ont un lien. Moi, j'adore les guitares ESP, par exemple, tu vois, j'ai beaucoup de modèles de cette marque-là. Donc, je crois qu'on se refait pas, quoi, tu vois. Mais bon, j'ai jamais tranché entre Fender et Gibson. En fait, les deux marques, pour moi, ont façonné l'histoire du rock et c'était pas déconnant de finir par les mélanger, en fait.
Et juste un petit avis sur les tendances de parfois les guitares un peu plus extrêmes où on rajoute des cordes ou enfin on sort un peu du schéma classique. C'est un truc qui t'intéresse ou qui non t'aimes bien, tu restes sur les classiques?
Alors ça dépend qui les utilise. Par exemple, je trouve que si on prend un groupe comme Meshuggah, par exemple, que je suis depuis leur début, je considère que le fait qu'ils aient ajouté des cordes à leur guitare, c'était vraiment un truc qui était dicté par leur écriture musicale. C'est-à-dire, ils n'ont pas suivi un phénomène de mode. Ils se sont dit, voilà, pour aller explorer tel ou tel truc, on a besoin d'autres fréquences, d'autres textures et donc ils ont été jusqu'à utiliser des guitares à 8 cordes et je trouve que dans leur cas ça a donné des trucs vraiment très intéressants. Après, le problème c'est toujours pareil dans le sillage de ces mecs-là, il y a tout un courant musical, le djent qui s'est emparé de ces instruments-là. Certains en ont fait des choses pertinentes, d'autres étaient que des suiveurs. Et je trouve que ça a surtout généré un son qui est très uniforme et où ça manque un peu de d'originalité peut-être au bout d'un moment. Donc je suis un peu divisé. Pour moi, qu'il y ait 6 cordes, 7 ou 8, c'est pas le débat. Après, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ça, quoi. Voilà, il pourrait y avoir que 2 cordes, pourquoi pas, si le résultat est trippant et créatif, tout peut fonctionner en fait.
D'accord. Pour revenir à notre actualité du jour, pas comment on passe, mais comment un rédac chef de Guitar Extreme Magazine se dit, je veux me lancer dans un nouveau projet et je lance United Guitars.
Bah, quand tu es journaliste, peu importe le créneau dans lequel tu travailles, il faut toujours trouver des sujets. Et je trouve que voilà, ça fait quelques années que c'est devenu un peu chiant en fait. Le monde de la guitare, je trouve qu'il se passe pas énormément de trucs. Beaucoup de gens travaillent de leur côté sur Internet ou sur les réseaux sociaux. La musique grand public qui sort, elle est plus du tout faite à base de guitare, même si la guitare existe toujours dedans, mais on va dire c'est plus du tout les sonorités qui sont mises au premier plan. Donc bon, finalement, voilà, je trouve qu'il y avait de moins en moins de passion et d'événements intéressants qui se passaient dans le monde de cet instrument. Je me suis dit, il faudrait un projet pour mettre en valeur tous les talents qui existent notamment en France. Voilà, il y a plein de gens qui jouent de la guitare et qui sont pas du tout représentés dans les médias généralistes. Et je me suis dit, il faudrait un projet collectif, quelque chose qui mette en lumière tous ces gens-là. Donc c'est un truc que j'ai commencé sous une forme un peu embryonnaire dans le magazine, puisqu'on a beaucoup de rubriques pédagogiques, et on a une chaîne YouTube qui est assez développée, où on a, je sais plus, 22 000 followers. Donc on a mis au point le tournage de deux longues vidéos qui étaient axées autour de longs morceaux instrumentaux. photos, et il y a à chaque fois 8 guitaristes qui participaient à ces vidéos, donc c'était intéressant. Et quand on a tourné la deuxième, il y avait dessus Axel Bauer, il y avait Fred Chatelier, Fabrice Dutour et quelques autres. Et à la fin du tournage, on a été dans un café et on s'est dit, ouais, ce serait super intéressant de continuer de travailler comme ça, mais d'une manière un peu plus officielle, peut-être avec davantage de moyens pour lancer un projet comme ça, un peu choral, un peu unique, chose qui s'est jamais vraiment fait. Il y a eu des compiles dans les années 80 et 90 où chaque guitariste donnait un de ses morceaux, c'était regroupé sous forme de compile comme ça, mais il n'y avait pas vraiment de choses qui se façonnaient ensemble dans un studio comme ça. À ma connaissance, c'est un projet qui est assez unique en son genre de ce côté-là.
D'accord. Donc effectivement, quand tu te lances dans l'initiative, je pense peut-être un des écueils, c'était de se dire, est-ce qu'on va, parce que les albums instrumentaux sont toujours quand même assez niches. Est-ce que ça a été un défi auquel tu t'es confronté, de dire comment je sors un peu de, enfin j'essaie de toucher un public assez large et si tu t'es posé cette question-là, comment t'as essayé d'y répondre?
Toucher un public assez large avec de la musique instrumentale, ça me paraît peu concevable. Disons qu'on peut tendre peut-être à essayer d'élargir le débat et à toucher un public qui déborde un petit peu de ce public de niche qui s'intéresse à la guitare. C'est ce qu'on cherche, hein, clairement, voilà, histoire de peut-être au bout d'un moment d'intéresser des médias qui donneraient au projet et à la guitare davantage d'exposition. Ce serait super qu'un jour on puisse avoir United Guitars à Taratata ou j'en sais rien, tu vois, quelque chose comme ça. Même si c'est pas forcément un endroit qui est prévu pour ça, mais ça pourrait donner un éclairage au projet qui serait super. Mais après, qu'on ne conçoit pas les morceaux qui sont sur ces albums dans le but de ratisser large. Voilà, donc on est conscient quand même que ça reste quelque chose de très spécialisé. Et on a essayé sur ce disque peut-être d'ouvrir un peu plus l'éventail musical pour rendre l'écoute de l'album un peu plus fluide. Surtout, voilà, le premier était peut-être un peu trop monochrome. Un peu trop à base de rock à base de sons saturés tout le temps, et je sais qu'il y a des personnes qui ont aimé l'album, mais qui n'étaient pas forcément guitaristes ou habitués à écouter de la musique à guitare, qui ont peut-être trouvé qu'il était indigeste à écouter d'un bout à l'autre. Donc on a essayé d'alléger un petit peu.
D'accord. Finalement, il y a un an environ sortait le volume 1. Qu'est-ce que tu retiens de cette période? Et est-ce que vous avez tiré des leçons du volume 1 pour le volume 2?
Les leçons qu'on a tirées, c'est ce que je viens de te dire, c'est-à-dire peut-être sortir un petit peu du hard, du heavy, du blues rock pour essayer d'explorer d'autres sonorités un peu plus ethniques, un peu plus prog, des trucs un peu plus funky aussi, voilà, pour créer des zones de relâchement entre les zones de tension, tu vois, qu'il n'y ait pas que de la tension tout le temps.
D'accord.
Parce que sinon, ça a tendance à fatiguer peut-être l'auditeur. On a aussi réduit un petit peu le format des morceaux. Ils sont un peu plus courts sur cet album. Parce que enfin voilà, c'est pareil. Je pense que déjà, on est dans une époque où les gens, ils ont de moins en moins l'habitude de faire des efforts pour dire quelque chose ou écouter quelque chose. Voilà, c'est pas non plus trop tiré sur l'ambulance. Donc on a essayé de réduire les morceaux à 5 minutes en moyenne, ce qui me paraît être un bon compromis.
D'accord. En début d'année, donc avant le début de la crise sanitaire, vous avez organisé le United Guitar Fest. Là aussi, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Et voilà, quel souvenir tu en conserves?
Bah écoute, c'était une super expérience. Pendant 2 jours, on a donc réussi donc à faire vivre ce projet autrement que sur un disque. Donc déjà, c'était une grande satisfaction. Voilà, on était censé là, le refaire. Bah, évidemment, avec la crise sanitaire, ça n'a pas été possible. Donc, je ne sais pas si on arrivera à le faire d'ici la fin de la saison. J'espère peut-être qu'on pourra. Mais non, c'était super de voir voilà, que les gens ont répondu présent, que quasiment tous les guitaristes du line-up du premier album ont pu être là. On avait toutes nos marques partenaires qui exposaient leur matériel dans les halls du théâtre. On a pu organiser des conférences, des masterclass. C'était vraiment un chouette événement à Paris intramuros, voilà, parce que la plupart des salons de la guitare, ils se déroulent en banlieue. Et donc là, on a réussi à faire un événement parisien, et voilà, c'était très très lourd et tendu à organiser, mais finalement, ça valait le coup, quoi.
D'accord. Et donc pour le volume 2, donc vous êtes passé par un comment dire, un crowdfunding sur Kiss Kiss Bang Bang, qui a été un succès. Vous avez atteint vos objectifs. Et sur cette base-là, comment on rassemble un tel casting
Je veux dire au niveau
des musiciens?
des musiciens.
Ouais.
Bah, écoute, moi, c'est vraiment par rapport aux rencontres que je fais dans mon métier de journaliste, dans un média guitare. Tu vois, j'interview des artistes tout le temps. J'organise des rencontres pédagogiques tout le temps. Donc finalement, ça m'a permis de former un réseau au fil des années qui. Voilà, je connais énormément de musiciens, que ce soit en France ou à l'étranger. Donc après, voilà, c'est juste histoire pour chaque album de réunir un casting cohérent de gens qui vont pouvoir s'imbriquer les uns avec les autres et qui vont pouvoir créer de la musique ensemble. Voilà, c'est un peu ça le challenge de choisir aussi des personnes qui vont être, qui vont avoir une mentalité tournée vers le partage et vers le fait de jouer pour un collectif et puis pas que pour eux-mêmes. Ça c'est aussi une dimension importante parce que pendant un mois et demi, ça demande de l'engagement, des efforts et de sacrifier un petit peu de temps qu'on pourrait réserver à des projets personnels. Donc voilà, tout ça c'est important.
D'accord, mais j'ai le sentiment, et là peut-être tu me contrediras, que un tel projet, tu le présentes pas tout à fait de la même façon entre un guitariste étranger qui est reconnu à l'international et un guitariste français qui peut être une référence déjà dans le microcosme parisien, enfin ou français, mais qui peut-être peut se dire, bah, ça peut être aussi justement avoir un intérêt artistique pour lui de collaborer avec d'autres, ou ça peut être une carte de visite après pour sa carrière. Ou enfin, je pense que tu vois, tu présentes pas tout à fait le même projet selon les types de profils que tu as en termes de musiciens en face de toi.
C'est sûr que Dougal Rich, pour lui, de participer à United Guitar, ça va pas changer le fil de sa carrière. Éventuellement, ça va asseoir sa notoriété en France pour des gens qui ne le connaissent pas encore ou peut-être qui s'intéressaient pas spécialement à lui. Mais c'est sûr qu'il va pas compter là-dessus pour développer sa carrière. Par contre, c'est évident que les gens qui ont Dougal Rich, qui jouent des solos sur leurs morceaux comme Mim Rosy ou comme Guru de Groot, ça peut éventuellement amener des gens dans le monde entier, parce qu'aujourd'hui on est dans un monde mondialisé, avec les réseaux sociaux, toutes les infos circulent très vite. C'est sûr que les gens qui vont tomber sur les vidéos de ces artistes-là sur lesquels Doug joue, ça peut leur permettre de gagner de la notoriété, évidemment.
D'accord. De mémoire, tout ça a été enregistré au cours de l'été, c'est ça?
L'enregistrement, il s'est déroulé à la fin du mois d'août et au début du mois de septembre.
Alors, on était entre guillemets une accalmie sanitaire, mais enfin, c'était pas entre guillemets la normale. Comment, au niveau pratique, vous êtes organisé et quelle difficulté supplémentaire a pu vous poser les règles actuelles sanitaires?
Bah, les règles sanitaires, c'était un peu éprouvant parce qu'en fait, le studio dans lequel on travaillait, bah, comme toutes les entreprises privées, ils ont été soumis à des réglementations sous peine d'être pénalisés. Donc, il fallait qu'on porte un masque tout le temps. qu'on désinfecte les surfaces métalliques régulièrement, que quand on se traitait nos guitares, on se lave les mains avec du gel hydroalcoolique et qu'on désinfecte les cordes après. Enfin voilà, il y avait tout un protocole comme ça qu'il a fallu mettre en place assez durement dès le début pour que tout le monde comprenne bien qu'on ne pouvait pas transiger et qu'il fallait composer avec. Et finalement, ça s'est très bien passé.
Est-ce que tu as le sentiment que d'une façon ou d'une autre, pas forcément les règles sanitaires, mais l'ambiance générale qui était un peu plus, entre guillemets, morne ou plus, voilà, grave que d'habitude, a impacté d'une façon ou d'une autre les compositions ou le, tu vois, le feeling artistique des musiciens investis?
C'est difficile à dire, je sais pas. Il y a peut-être que c'est un album un peu plus sombre et un peu plus mélancolique que le premier, peut-être, ouais. Bah, de toute façon, on a tous, qu'on fasse de la musique ou pas, on a tous été affectés par le confinement, par ce truc qui nous est tombé dessus d'une manière complètement inopinée et imprévue. Enfin, voilà, ça a changé quelque chose dans nos vies, donc forcément, tout ce qu'on fait est un peu conditionné par ça. Donc, j'ai envie de te dire oui.
D'accord, non, non, mais c'est important ce ressenti-là. Lors de ces différentes sessions, il y a quand même le besoin d'être, comment dirais-je, créatif et donc d'arriver à travailler en bonne intelligence. Est-ce que sur les différentes sessions, il y avait beaucoup de vous avez beaucoup entre guillemets jeté avant de trouver la bonne formule ou ça a été où les cohésions sont faites quand même relativement vite?
Non, c'est, tu sais, à partir du moment où on a bien travaillé en amont sur les maquettes des morceaux, il y a un petit ajustement à faire le jour même quand on enregistre la session. On a le temps quand même, même si c'est rapide, hein, chaque morceau est enregistré en 4 ou 5 heures, donc c'est peu de temps. Mais non, on travaille quand même avec des musiciens accompagnateurs, donc les batteurs et les bassistes, qui sont des gens
D'affaires
très...
très pro.
Très compétents, très techniquement très performants, qui ont une culture musicale très large et une faculté d'adaptation très forte. Donc ça, c'est vraiment le critère de recrutement, il est là. Il faut vraiment qu'on sache qu'au bout d'une prise ou deux, ça va tomber dans le mille. Et ils savent s'adapter à tous les musiciens qui contribuent au projet. Voilà, donc ça se passe généralement très bien et avec ce genre de musicien, la symbiose, elle se trouve rapidement.
Et les guitaristes invités, qui sont donc tous forcément professionnels et un très haut niveau, alors, tu vas me dire ça dépend de personnalité, mais par exemple Arnaud, derrière sa console, il pouvait assez facilement les orienter. Enfin, c'est quelque chose qui. Les conseils ou les propositions passent bien.
Alors, moi, c'est plutôt mon rôle, moi, en tant que réalisateur.
D'accord.
Arnaud, évidemment, il joue de la guitare aussi, donc il peut te donner son avis. Mais par contre, le retour sur les prises qui viennent d'être faites sur le vif, c'est plutôt mon rôle de dire au guitariste si j'ai trouvé ça bien, moyen, ou peut mieux faire, ou si je sais qu'il peut sortir quelque chose, mais qu'il n'a pas encore atteint ce truc-là. L'amener à le faire. Donc c'est un travail un peu psychologique en même temps. Voilà, c'est vraiment mon rôle le plus important, je pense, dans ce projet, c'est celui-là.
D'accord. Sur les sessions d'enregistrement, est-ce que tu as une ou deux anecdotes que tu voudrais spécialement mettre en avant ou...
Des anecdotes que je veux mettre en avant. Écoute, ouais, enfin, il y a eu plein de choses, même si c'était assez concentré dans le temps. Laisse-moi réfléchir. Oui, je sais pas, il y a eu des moments assez rigolos. Par exemple, il y a Roll Poupeau, donc il avait pas proposé de maquette, donc il n'a pas vraiment. Je me demandais même à la limite ce que ça allait donner, parce que j'avais aucune idée le jour de l'enregistrement de ce qu'il allait faire, en fait. Donc c'était assez curieux. Et en fait, il est arrivé avec un copain à lui, Victor Mécanique, qui est le claviériste de son groupe et son bras droit musical, qui est un jeune mec super talentueux d'ailleurs. Et en fait, je lui dis, bon, bah, comment ça se passe? T'as un morceau et tout? Et il m'a dit, non, j'ai pas vraiment de morceau, j'ai j'ai quelques idées comme ça. Disons qu'on va répéter un peu pour voir ce que ça donne et tout. Donc c'était un peu waouh, qu'est-ce qui va se passer? Et en fait, bon, bah, avec le groupe, ils ont répété pendant 1 heure et demie. Il y avait donc Yann Coste à la batterie, François-Charles de la Coudre à la basse, il y avait Fred Chapelier à la deuxième guitare. Donc Yarol et Victor dans la salle, donc ça faisait quand même pas mal de monde. Et donc ils ont créé le morceau sur place. Et au bout d'une heure et demie, ils nous ont dit bon bah c'est bon, on peut enregistrer le truc et tout. Et il y a eu 5 prises live. Et la prise qui est sur l'album, en fait, c'est un mélange de la quatrième et de la cinquième. Et donc voilà, c'est un morceau qui est plus ou moins une jam, en fait, qui n'existait pas à l'origine et qui a été créé intégralement en studio. C'est la première fois qu'on a ce cas de figure et ça nous a montré que c'est possible.
D'accord, bah effectivement, c'est une belle aventure.
Par contre, je suis désolé, mais je crois qu'il y a la journaliste d'après qui commence à m'envoyer des SMS parce qu'il y a du retard.
Pas de souci. Bah écoute, on peut. Voilà, bah on peut terminer. Est-ce que c'est un dernier mot que tu veux dire spécifiquement?
Ouais, bah écoute, non, bah j'espère que cet album il va être écouté et partagé par le plus de gens possible pour que les gens s'intéressent davantage à la guitare et à la musique à guitare et que voilà, ça va redonner un coup de boost à cet instrument qui, j'ai l'impression, est un petit peu déserté par le grand public et les médias généralistes. Voilà, c'est mon souhait. Et puis le petit message, c'est que voilà, donc l'album, il est disponible sur notre site internet, sur la boutique de notre site internet. Donc je sais pas si tu pourras mettre le lien
Pas de souci, il y sera.
www.united-guitars.fr/boutique. Il est disponible sur Amazon, sur Fnac.com. Il est disponible dans tous les Cultura, les magasins Fnac, les Leclerc, voilà. Et il est aussi évidemment disponible en streaming sur toutes les plateformes.
Ok.
Mais même si c'est super pratique de l'écouter en streaming, c'est bien de soutenir le projet en achetant un album, que ce soit dans la version CD, double CD ou triple vinyle, puisqu'on a fait un vinyle cette fois, voilà, ça nous aide grandement.
Ok, bah écoute, le message est passé. Aucune excuse pour ne pas l'acheter. Merci pour tout et puis bah, tous nos vœux pour la suite.
Eh ben, merci à toi.
À
Je
bientôt.
te dis à bientôt, salut.
Ciao.